où a lieu l'ecpyrose, et à cause d'un excès de vertu prévalent les forces de l'enfer. » Le vieillard se tut. Il tenait les deux mains ouvertes sur le livre, comme pour en caresser les pages, comme s'il étalait les feuillets pour le mieux lire ou voulait le protéger d'une prise rapace. « Tout cela n'a de toute façon servi à rien, » lui dit Guillaume. « Maintenant, c'est fini. Je t'ai trouvé. J'ai trouvé le livre. Et les autres sont morts en vain. »
« Pas en vain, » dit Rolleret. « Peut-être en nombre excessif. Et si par hasard il t'avait fallu une preuve que ce livre est maudit, tu l'as eue. Mais il ne faut pas qu'il soit mort en vain. Et afin qu'il ne soit pas mort en vain, une autre mort ne sera pas de trop, » dit-il.
Et il commença de ses mains décharnées et diaphanes à déchirer par morceaux et par bandes les pages molles du manuscrit, se les déposant en lambeaux dans la bouche et mâchant lentement comme s'il consommait l'hostie et voulait la faire chair de sa propre chair. Guillaume le regardait fasciné et paraissait ne pas se rendre compte de ce qui se passait. Puis il se ressaisit et se pencha en avant en criant « Que fais-tu ? » Rolleret sourit, découvrant ses gencives exsangues, tandis qu'une bave jaunâtre coulait de ses lèvres pâles sur les poils blancs et rares de son menton.
« C'est toi qui attendais la sonnerie de la septième trompette, n'est-ce pas ? Écoute à présent ce que dit la voix. Tiens secrètes les paroles des sept tonnerres et ne les écris pas. Tiens, mange-le ! Il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche, il aura la douceur du miel. Tu vois ? Maintenant je scelle ce qui ne devait pas être dit dans la tombe que je deviens. »
Il rit. Juste ciel, lui, Rolleret. Pour la première fois, je l'entendis rire. Il rit du fond de sa gorge, sans que ses lèvres prissent une expression de joie, et on eût presque dit qu'il pleurait.
Tu ne t'y attendais pas, Guillaume, à cette conclusion, n'est-ce pas ? Ce vieux, par la grâce du Seigneur, l'emporte encore, n'est-ce pas ?
Et comme Guillaume cherchait à lui soustraire le livre, Rolleret, qui sentit le geste en percevant la vibration de l'air, fit un mouvement de retrait en serrant le volume sur sa poitrine de la main gauche, tandis que de la droite, il continuait à en déchirer les pages et à se les mettre à la bouche. Il se trouvait de l'autre côté de la table, et Guillaume, qui ne parvenait pas à l'atteindre, tenta brusquement de contourner l'obstacle. Mais sa robe se prit dans son siège qui tomba. Et ce remue-ménage n'échappa nullement à Rolleret. Le vieillard rit encore, cette fois plus fort, et avec une insoupçonnable rapidité, il tendit la main droite, repérant à tâtons la lampe, guidée par la chaleur, il parvint à la flamme. Il pressa la main, sans craindre la douleur, et la flamme s'éteignit. La pièce fut plongée dans l'obscurité, et nous entendîmes pour la dernière fois l'éclat de rire de Rolleret qui criait
« Trouvez-moi à présent ! Parce que là, c'est moi qui vois le mieux !»
Puis il se tut et ne se fit plus entendre, se déplaçant de ses pas silencieux qui rendaient toujours aussi inattendues ses apparitions. Et nous ne discernions par moments, en différents points de la salle, que le bruit du papier qui se déchirait.
« Atso ! » cria Guillaume. « Veille à la porte ! Ne le laisse pas sortir !»
Mais il avait parlé trop tard, car moi, qui depuis quelques secondes déjà frémissais du désir de me jeter sur le vieux, à la chute des ténèbres, je m'étais lancé en avant, cherchant à contourner la table du côté opposé à celui où s'était déplacé mon maître. Trop tard. Je compris que j'avais donné la possibilité à Rolleret de gagner la porte, parce que le vieux savait se diriger dans le noir avec une sûreté extraordinaire. Et de fait, nous perçûmes un bruit de papier déchiré dans notre dos, et plutôt affaibli car il provenait déjà de la pièce contiguë. Et en même temps, nous entendîmes un autre bruit, un grincement laborieux et progressif, un gémissement de gond.
« Le miroir !» cria Guillaume. « Il nous enferme !»
Guidés par le bruit, nous nous précipitâmes tous deux vers l'entrée. Moi, je butais sur un escabeau et me contusionnais une jambe, mais je n'en fis point cas parce qu'en un éclair, je compris que si Rolleret nous avait enfermés, nous ne serions plus jamais sortis. Dans l'obscurité totale, nous n'aurions pas trouvé le moyen d'ouvrir, ne sachant ce qu'il fallait manœuvrer, où et comment. Je crois que Guillaume agissait avec le même désespoir que moi, car je le sentis à mes côtés, tandis qu'ensemble, le seuil atteint, nous nous arc-boutions au revers du miroir qui se refermait sur nous. Nous arrivâmes à temps. La porte s'immobilisa et peu à peu céda en se rouvrant. D'évidence, Jorge, se rendant compte que le jeu était inégal, s'était éloigné. Nous sortîmes de la pièce maudite, mais nous ne savions pas maintenant où le vieux s'était dirigé, et l'obscurité était toujours d'encre. Tout à coup, je me souvins. « Maître, mais j'ai la pierre à feu sur moi !»«
Et alors, qu'attends-tu ? » cria Guillaume. « Trouve la lampe et allume-la !»
Je me jetai dans le noir, retournant dans le Finis Africae pour chercher la lampe à tâtons. J'y réussis aussitôt, par un miracle divin, fouillai dans mon scapulaire, trouvai la pierre à feu, mes mains tremblaient, et je ratai deux ou trois fois avant de l'allumer, alors que Guillaume haletait à la porte.
« Vite ! Vite !»
Et enfin j'éclairai.
« Vite !» m'exhortait encore Guillaume. « Sinon, l'autre avale tout Aristote !»«
Et il meurt !» m'écriai-je angoissé, le rejoignant et me mettant à la recherche avec lui.
« Peu me chaud s'il meurt, le maudit !»
criait Guillaume, scrutant l'espace tout autour de lui et se déplaçant de façon désordonnée. « De toute manière, avec ce qu'il a mangé, son destin est déjà arrêté. Mais moi, je veux le livre !» Puis il s'immobilisa et il ajouta, un peu plus calme,
« Halte-là !
Si nous procédons de la sorte, nous ne le trouverons jamais.
Chut !
Un instant. Nous nous roidîmes en silence. Et au milieu du silence, nous entendîmes, à une courte distance, le bruit d'un corps qui heurtait une armoire et le fracas de quelques livres qui tombaient.
« Par là ! »
criâmes-nous ensemble. Nous courûmes dans la direction des bruits, mais aussitôt nous nous rendîmes compte que nous devions ralentir notre allure. En effet, en dehors du Finis Africae, la bibliothèque était traversée ce soir-là par des bouffées d'air qui sifflaient et gémissaient, témoignant de la force du vent qui soufflait à l'extérieur. Multipliée par notre élan, elle menaçait d'éteindre la lampe, reconquise de haute lutte. Comme nous ne pouvions accélérer, nous, il eût été nécessaire de ralentir Rolleré. Mais Guillaume eut une intention opposée et il cria «
Nous t'avons pris, vieux ! À présent, nous avons la lumière !»
Et ce fut une sage résolution, car cette révélation avait probablement poussé Rolleré à s'agiter, qui dut doubler le pas, compromettant l'équilibre de sa sensibilité magique de voyant dans les ténèbres. De fait, peu après, nous entendîmes un autre choc, et quand, en suivant le bruit, nous entrâmes dans la salle U de Uspania, nous le vîmes tomber à terre, le livre encore dans les mains, alors qu'il cherchait à se relever au milieu des volumes dégringolés de la table qu'il avait heurtés et renversés. Il cherchait à se relever, mais il continuait à arracher les pages, comme pour dévorer le plus vite possible sa proie. Lorsque nous le rejoignîmes, il s'était remis sur pied et, sentant notre présence, il nous faisait front en reculant. Son visage, à la lueur rouge de la lampe, fut alors pour nous une apparition horrible. Les traits altérés, une sueur maligne striait son front et ses joues. Ses yeux d'ordinaire blancs de mort s'étaient injectés de sang. De sa bouche sortaient des serpentins de parchemin comme d'une bête famélique qui se serait trop gavée et ne parviendrait plus à déglutir sa pitance. Défiguré par l'anxiété, par le poison harcelant qui désormais sinuait déjà abondamment dans ses veines, par sa détermination désespérée et diabolique, ce qui avait été la face vénérable du vieillard apparaissait maintenant comme une chose hideuse et grotesque. En d'autres circonstances, elle aurait pu faire éclater de rire, mais nous aussi nous étions comme réduits à l'état d'animaux, des chiens qui braquent le gibier. Nous aurions pu le saisir avec calme. En revanche, nous nous précipitâmes véhémentement sur lui. Il se démena, serra les mains sur sa poitrine pour défendre le volume. Moi, je le tenais de la senestre, tandis que de la dextre, je cherchais à maintenir toujours haut la lampe, quand de la flamme j'effleurais son visage. Il ressentit la chaleur, émit un son étouffé, un rugissement presque, laissant choir de sa bouche des lambeaux de papier, abandonna de sa dextre la prise sur le livre, lança la main vers la lampe qu'il m'arracha d'un coup et projeta devant lui. La lampe alla tomber en plein sur le tas de livres dégringolés de la table, entassés les uns sur les autres, avec leurs pages ouvertes. L'huile se renversa. Le feu prit aussitôt un parchemin très fragile qui flamba comme une brassée de brindilles sèches. Tout advint en un éclair. Une grande flamme s'éleva des volumes, comme si ces pages millénaires aspiraient depuis des siècles à l'embrasement et jouissaient dans la satisfaction soudaine d'une soif insatisfaite d'Ecpyrose. Guillaume se rendit compte de ce qui arrivait et il lâcha prise. Le vieux, se sentant libre, recula de quelques pas. hésita sensiblement, trop sans doute, incertain s'il fallait reprendre Rolleret ou se précipiter pour éteindre le petit bûcher. Un livre plus vieux que les autres brûla presque d'un coup, jetant bien haut une langue de feu. Les fines lamelles de vent qui pouvaient éteindre une faible flamme en stimulaient par contre de plus fortes et vivaces, et même en faisaient jaillir des brandons errants.
« Éteins ce feu, vite !» s'écria Guillaume. « Sinon tout va flamber !»
Je m'élançai sur le brasier, puis m'arrêtai, ne sachant que faire. Guillaume vint résolument vers moi pour me prêter main forte. Nous tendîmes les bras dans la direction de l'incendie, cherchâmes des yeux quelque chose avec quoi l'étouffer. J'eus comme une inspiration, j'ôtai ma robe en la passant par la tête et tentai de la jeter sur le brasier. Mais déjà les flammes étaient trop hautes, elles attaquèrent ma robe et s'en alimentèrent. Je retirai mes mains couvertes de brûlures, me tournai vers Guillaume et vis, juste dans son dos, Jorge, qui s'était approché de nouveau. La chaleur était désormais si forte qu'il la ressentit parfaitement, sut avec une certitude absolue où se trouvait le feu, et il y jeta l'Aristote. Guillaume eut un mouvement de colère et donna une violente bourrade au vieux qui piqua de la tête contre l'arête d'une armoire et tomba à terre. Mais Guillaume, que je crois avoir entendu lâcher un abominable juron, n'en eut cure. Il revint au livre, trop tard. L'Aristote, en somme, ce qui en était resté après le repas du vieillard, avait déjà pris feu. Entre-temps, des étincelles avaient volé vers les murs et déjà les volumes d'une autre armoire se recroquevillaient sous la fureur du feu. Dès lors, non plus un, mais deux brasiers incendiaient la pièce. Guillaume comprit que nous ne pourrions les éteindre de nos mains et il décida de sauver les livres avec les livres. Il se saisit d'un volume qui lui sembla mieux relié que les autres et plus compact et il tenta de s'en servir comme d'une arme pour étouffer l'élément ennemi. Mais en frappant de la reliure ornée de ferrures et de cabochons sur le bûcher des livres ardents, il ne faisait rien d'autre que provoquer de nouvelles étincelles. Il chercha à les éparpiller à coups de pied, mais il obtint l'effet contraire, car il s'en éleva des lambeaux de parchemin presque réduits en cendres, qui voletaient comme des chauves-souris, tandis que l'air, allié à son aérien compagnon, les envoyait incendier la matière terrestre d'autres feuillets. La malchance avait voulu que ce fût là une des salles les plus désordonnées du labyrinthe. Du haut des rayons pendaient des manuscrits roulés, d'autres livres plutôt délabrés laissaient sortir de leur couverture, comme de lèvres béantes, des langues de peau desséchées par les ans, et la table devait avoir supporté une énorme quantité d'écrits que Malachi, alors seul depuis des jours, avait négligé de remettre en place. Si bien que la pièce, après l'écroulement provoqué par Jorge, était envahie de parchemins dans l'attente de se changer en un autre élément. En un rien de temps, ce lieu fut un grand brasier, un buisson ardent. Les armoires participaient aussi à ce sacrifice et commençaient à crépiter. Je me rendis compte que le labyrinthe tout entier n'était rien d'autre qu'un bûcher sacrificiel préparé pour l'heure de la première étincelle.
« De l'eau ! Il faut de l'eau !» disait Guillaume, pour ajouter ensuite « Et où trouver de l'eau dans cet enfer ?»«
Dans les cuisines ! En bas, dans les cuisines »
m'écriai-je. Guillaume me regarda perplexe, le visage rougi par cette furieuse clarté.
« Oui, mais avant que nous soyons descendus et remontés !»«
Au diable » cria-t-il alors.
« Dans tous les cas, cette pièce est perdue, et peut-être la suivante aussi. Descendons tout de suite. Moi, je cherche de l'eau, et toi, tu vas donner l'alarme. Il faut beaucoup de gens !»
Nous trouvâmes la direction de l'escalier parce que la conflagration illuminait l'enfilade des pièces, encore que de plus en plus faiblement, et nous parcourûmes les deux dernières salles presque à tâtons. En bas, la lumière de la nuit jetait une clarté pâle dans le scriptorium, et de là nous descendîmes au réfectoire. Guillaume courut aux cuisines, moi à la porte du réfectoire, bataillant pour l'ouvrir de l'intérieur, et j'y parvins non sans un long effort, car l'agitation me rendait gauche et inhabile. Je sortis sur le plateau, courus vers le dortoir. Je compris alors que je n'aurais pas pu réveiller les moines un à un, et je fus bien inspiré de me précipiter à l'église, où je cherchais le chemin de la tour campanaire. Comme j'y arrivais, je me suspendis à toutes les cordes en sonnant le tocsin. Je tirai avec force et la corde du bourdon, en remontant, m'entraînait avec elle. Dans la bibliothèque, j'avais eu le dos de mes mains brûlé, mes paumes étaient encore saines et je me les brûlais en les faisant glisser le long des cordes jusqu'au moment où elles furent en sang et que je dus lâcher prise. Mais j'avais fait suffisamment de bruit, je m'élançai au dehors, à temps pour voir les premiers moines qui sortaient du dortoir tandis qu'on entendait au loin les voix des servants qui s'agglutinaient sur le seuil de leur logement. Je ne pus m'expliquer clairement, parce que j'étais incapable d'exprimer un mot, et les premières paroles qui me vinrent aux lèvres furent formulées dans ma langue maternelle. De ma main ensanglantée, j'indiquai les fenêtres de l'aile méridionale de l'édifice dont l'albâtre laissait transparaître une lueur anormale. Je me rendis compte, à l'intensité de la lumière, que le temps de descendre et de sonner les cloches, le feu s'était largement propagé à d'autres pièces. Toutes les fenêtres de l'Africa et toute la façade entre l'Africa et la tour orientale brillaient maintenant de clartés intermittentes.
« De l'eau ! Apportez de l'eau ! » criai-je.
Sur le moment, personne ne comprit. Les moines étaient si accoutumés à considérer la bibliothèque comme un lieu sacré et inaccessible qu'ils n'arrivaient pas à réaliser qu'elle était menacée par un accident vulgaire, comme peut l'être une chaumière de paysans. Les premiers qui levèrent les yeux vers les fenêtres firent le signe de la croix en murmurant des mots d'épouvante, et je compris qu'ils croyaient à de nouvelles apparitions. Je m'accrochai à leurs robes, les implorai de comprendre, jusqu'à ce que quelqu'un traduisît mes sanglots en paroles humaines. C'était Nicolas de Morimonde qui dit
« La bibliothèque brûle !»«
Voilà !» murmurai-je en me laissant tomber épuisé sur la terre.